Cette étude le prouve, on peut être accro à la mimolette, au coulommier, au Saint-Nectaire, comme on l'est à la cigarette, à l'alcool, à la drogue. Alors je ne pouvais rester muet, moi qui suis né pas si loin de ce triangle menaçant dont les extrémités ont des noms qui font peur. Pont-l'Évêque, Livaro, Camembert.
CO2, mon amour.
Moi qui ai ouvert l'œil tout près de cette véritable plaque tournante de la pâte molle, je ne pouvais m'empêcher de dire ma colère et mon dépit. Ah, tout d'un coup l'on comprend mieux l'excentricité des œuvres des grands normands quand on découvre Agar, déçu, désappointé, qu'ils étaient sous l'influence de ces narcotiques dangereux.
Avec Denis Chesson.
Sans Camembert et sans Pont-l'Évêque, sans Livaro et sans Neuchâtel, aurait-on seulement jamais entendu parler des travaux d'Alphonse Allais, d'Éric Satie, d'André Breton? Connaîtrions-nous aujourd'hui les inventions délirantes, extravagantes, hallucinées de Valérie Lemercier?
Sur France Inter.
De Gérard Larcher.
Et oui, grave question. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2, mon amour, donc l'émission qui rapproche les hommes, le Livaro, on l'a bien compris, en nous rapprochant aussi de la nature, avec Gaël Braouzek et Nicolas Delmas à la technique, assisté de Camille Blanès. C'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Eh ben, qui va commencer par une petite humeur, bah tiens, la chasse. La chasse, c'est français, c'est historique, c'est bien, c'est viril, et nous sommes les premiers protecteurs de la nature. Bah oui, puisque le ministère de l'Environnement nous a donné donc ce label. Alors, on l'a toujours dit dans cette émission, c'est vrai que le point commun entre écologistes et chasseurs, c'est de garder un milieu naturel en bon état, il n'y a pas de doute. Alors certes, mais on n'a jamais su trop réguler le trop-plein de sangliers qu'on nourrit de graines, que l'on croise avec du cochon, parce qu'il faut faire tourner la machine à chasse pour le citadin qui veut tirer du gros avant de repartir serein, calmé le dimanche soir. D'accord, on a aussi un peu de mal à sauvegarder les espèces qui disparaissent vite, mais là, c'est vrai que c'est pas que de notre faute, et c'est exact, parce qu'il n'y a plus de haies, il n'y a plus de haies pratiquement, non, pas complètement. Mais un Massey Ferguson à la place se tire un épandeur de pesticides avec des ailes pulvérisatrices aussi grandes que les subventions perçues pour continuer ce modèle qui a touché le fond. Et quand même, nouvelle, oui, et jolie cette semaine. Après le retour de l'ancien régime et de ses chasses présidentielles, où nos bons maîtres, vous savez, peuvent se taper le ventre en fusillant tous les faisans levés par la domesticité du château, eh bien la loi nouvelle autorise les chasseurs à utiliser un silencieux au bout du canon. Oui, un silencieux. Donc au lieu de faire pan, bah, le fusil qui va faire poum. Et alors, le jogger, le flâneur, le randonneur, poum, pourront toujours être tués, poum, dans les bois, en ramassant des poum violettes et des champignons. Mais on ne saura même pas qu'on est mort. Alors, astuce suprême quand même, ça c'est bien pour les braconniers qui pourront gérer la faune à cœur joie, dans une atmosphère ouatée, propice à la méditation, cher Christophe André. Braconner en silence, sans être repéré par des gardes de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage qui sont en sous-effectif, eh ben c'est très développement durable. Quant à la semi-hypocrisie consistant à proclamer que le départ du coup n'abîmera plus leur fragile faculté auditive, on pourrait peut-être leur suggérer une méthode qui est plus radicale, hein, se contenter d'une paire de jumelles, hein, un appareil photo, ça peut être bien aussi. Mais attendre une réaction de colère de la part d'un peuple qui fait bénir ses portables à l'église et s'arrache la chemise pour des couches-culottes en promotion, ça reviendrait peut-être à penser qu'il reste une conscience éthique chez Volkswagen, Daimler, BMW et Bosch qui testent la pollution de leur moteur diesel en faisant appel à nos amis les singes. Alors les chasseurs peuvent donc se permettre beaucoup de choses depuis la première loi de 1844 et contribuer à faire en douce, peut-être disparaître jusqu'au dernier ortolan, ils savent que c'est pas leur intérêt d'ailleurs, et puisque semble-t-il, aucun pouvoir ne souhaite leur tenir tête et au contraire, ils trouvent son intérêt ruralo-électoral. Alors cet arrêté, il a été adopté sans consultation publique.
Silencieusement, Denis ?
C'est ça, silencieusement. Et l'espace donc nous rappelle que pour les chasseurs, tuer sera plus facile. En battu ou à l'approche, ils pourront tirer sans faire fuir les animaux et multiplier les cartons. 30 millions d'animaux abattus chaque année, 15 morts, 200 blessés, bref la routine. On peut donc faire mieux, donc gardons les yeux bien ouverts, car l'ouïe sera inutile. Et en attendant d'hypothétiques jours meilleurs, faisons le gros dos et saluons quand même cette belle initiative civique et écologique. Lutter contre le bruit dans nos champs et nos forêts. Touchez ma bosse, mon bon seigneur. Et voilà. Donc, on va se faire une jolie petite ronde d'initiative, mais aussi dans l'actualité, je vais vous parler des zones humides. Alors, il ne s'agit pas évidemment des communes inondées, hein, et nous saluons d'ailleurs nos compatriotes qui malheureusement galèrent les bottes aux pieds encore ce week-end. Non, les zones humides, ça va être le Marais Poitevin, la Camargue, la Brenne, la Dombes. Ça, c'est les plus connus. Mais sinon, c'est aussi les mares, les vasières, les prairies ordinaires qu'on a alors merveilleusement drainées, asséchées, comblées. Bref, flinguées à coups de subventions généreuses. Et on se rend compte que maintenant, en fait, des bienfaits dans une société technicienne, mais c'est toujours un petit peu tard. Donc c'est aussi l'occasion de donner un coup d'éclairage, parce que c'est donc la journée, on va dire le week-end des zones humides, de donner un coup d'éclairage sur un film qui s'appelle « Zones humides, un présent retrouvé », qui a été tourné dans le Tarn-et-Garonne.
Maintenant, on va remplacer notre sol nu par une zone humide. Si vous n'avez pas compris qu'une zone humide, ça fonctionne comme une éponge, et bien cette expérience, elle vous permet de le comprendre, vous allez voir. Donc la différence avec tout à l'heure, c'est qu'au lieu d'avoir des champs cultivés jusqu'au bord du ruisseau, et bien au bord du ruisseau, c'est plutôt une prairie. Tout le monde est prêt, concentré? Alors, la pluie, top!
Ça met plus de temps avec la mousse.
À quoi?
À couler.
Pourquoi?
Pour que ça absorbe.
Exactement. Notre zone humide, elle était sèche, elle s'est gorgée d'eau. Elle a gardé l'eau avec elle. Comme votre prairie ici, là. Il y a des crevasses en ce moment. Cet hiver, quand il va pleuvoir, elle va se gorger d'eau. C'est de l'eau qu'elle va garder. Elle ne va pas la redonner tout de suite à la rivière. Elle va la garder tout l'hiver et elle la redonnera plus tard en été.
Joli travail pédagogique donc avec ce film Zones humides, un présent retrouvé, qui est signé Boris Claret et Isabelle Dario. Quelques mots donc de sa part par rapport donc à ce film qui a été produit par le département, par l'agence de l'eau Adour-Garonne. Isabelle Dario.
C'est vrai que sur ce département, on a vraiment constaté que toutes ces zones continentales étaient vraiment très 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 abîmées en termes de zones humides. Mais par contre, on y a vraiment rencontré un réseau d'hommes et de femmes qui agissent ensemble sur ces lieux-là, et c'est ça qu'on a cherché à mettre en avant, parce que je pense que c'est effectivement le lien entre toutes ces personnes-là qui fait qu'on pourra avancer sur la restauration de ces zones humides.
Alors c'est une véritable mobilisation, c'est-à-dire que ces zones humides ont été un trait, on va dire, un point commun avec tous ces acteurs.
Oui, je crois qu'il y a un gros travail de sensibilisation et de toutes les structures, en fait, hein, que ce soit les syndicats mixtes, les techniciens de rivière qui travaillent dans ces syndicats, tous les gens qui travaillent dans l'environnement, comme les gens du CPIE, puis effectivement, un département, quoi, il y a un service départemental qui a vraiment eu envie de favoriser aussi le lien avec tous ces gens-là, les chasseurs, les agriculteurs, bien évidemment. C'est le travail que font tous ces gens-là au quotidien qui va faire vraiment avancer la question.
Mais ça sort véritablement très très bien dans ces six petits films, parce que vous avez six petits films très pédagogiques. Si vous donc souhaitez avoir les indications, les coordonnées, c'est sur le site de CO de Mon Amour, vous en avez l'habitude, que vous aurez donc ces différents éléments, parce qu'on peut s'en servir, on peut s'en servir pour faire de la pédagogie. Et ce qui est intéressant, Frédéric Danvé, c'est de voir donc qu'il y a des gens qui sont assez antagonistes peut-être, mais qui fonctionnent bien, donc je le disais, avec ce trait d'union que sont les zones humides. Sujet que l'on connaît un petit peu, parce que on appartient à une association qui s'appelle Rhizobiome, et qui dans le Tarn, et qui dans le Tarn donc s'occupe de ces zones humides. Rappelons les bienfaits de ces zones humides.
Le bienfait principal, c'est que c'est un régulateur naturel de la quantité, de la qualité de l'eau. C'est-à-dire, quand vous supprimez une zone humide en amont d'un village, inévitablement, quelques années après, vous aurez une crue facilité, une crue plus haute, et puis une eau de moindre qualité. Et puis, comme ces zones fonctionnent naturellement, il y a une naturalité qui s'y exprime, une biodiversité. Et puis derrière tout ça, c'est ces zones, tant qu'elles sont maintenues par des éleveurs qui en ont compris l'intérêt, ces zones maintiennent un élevage de qualité à l'herbe qui n'a pas besoin, ou moins besoin, de sortir le foin en été quand il fait sec, ou de faire venir des tourteaux. Voilà, ce sont des éléments indispensables de l'hydrographie, et de l'équilibre de nos paysages, et puis du maintien d'une agriculture paysanne.
De quoi allons-nous parler avec vous, Frédéric Danvé, dans cette ronde d'initiative?
On va parler de la livraison 24 heures. C'est pas terrible, mais on peut faire mieux que ce que ça coûte pour l'environnement et la société.
C'est-à-dire qu'on se voit de se faire livrer en 24 heures chrono, quoi. C'est ça l'idée.
Expliquer ce qu'il y a derrière.
C'est très bien. Cher docteur Laurent Chevalier, vous êtes avec nous. Bonjour Laurent Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes toujours médecin et nutritionniste à Montpellier, à côté.
Toujours.
C'est très bien. Voilà. De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Alors, je vais vous parler quand même de l'ortie, d'une plante
qui
est très intéressante. Des salmonelles, comment se protéger chez soi des salmonelles.
Bien.
Et puis, de la problématique des nanoparticules qu'on a dans l'alimentation, qui sont mal contrôlées et qui posent tout un tas de problèmes.
Bon, et puis alors Sandra Colombo, bonjour à vous Sandra.
Bonjour.
Alors Sandra Colombo, avec votre copine Nicole Ferroni, vous avez sorti « Améliore ta vie pourrie » grâce à Nicole et à Sandra aux éditions du Cherche Midi. De quoi parlons-nous aujourd'hui ?
Eh bien, je vais vous améliorer la vie. Même si elle n'est pas pourrie, je vais vous compter fleurettes et je vais vous parler des fleurs d'ici notamment.
Oh, c'est très très bien.
Oh, c'est joli.
Allez, c'est parti, vous avez donc le menu. Et encore, moi je vais rajouter aussi des fruits en Ariège, des gens qui replantent des bordures d'arbres fruitiers du côté de Mirepoix et de la Vlanais.
Il me semble que c'était Étienne Dao, oui, sur France Inter dans CO2 Mon Amour, le jardin choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice.
Alors, espèce de connard, va faire attention, non ?
Pardon, monsieur, je suis désolé.
Connard ! C'est terrible ce qui vous est arrivé !
Quoi ? On a touché à ton rétroviseur.
CO2 Mon Amour.
Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres ? Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches !
Vous êtes fou, monsieur.
Mais elle est belle, ta vie, Mouraud. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, Mouraud. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible.
Denis Chessou.
Ah oui, on s'en lasse pas de celui-là. Ça, c'est... Voilà, mais chez vous, c'est beaucoup plus calme. Et aussi dans ce studio, tout va bien. Laurent Chevalier, auteur du guide antitoxique. On retrouve ceci donc en format de poche aussi de « Alors, on mange quoi ?» Eh ben, on va s'intéresser dans l'actualité quand même aux fameuses salmonelles. Je tiens à dire aussi qu'on va remercier un Américain qui était vétérinaire, qui s'appelait Daniel Elmer Salmon, qui a donné son nom aux fameuses salmonelles.
Voilà. Je ne savais pas.
Eh ben voilà, c'était en 1884. En fait, il a un peu piqué l'idée à un Théobald de Smith. J'avais vu ça.
Oui, mais c'est bien ce qu'il semble. plaît.
Mais enfin bon, c'est quand même lui qui a gardé le nom. Donc les salmonelles, infection donc à une infection donc à une bactérie que l'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui puisque on va quand même saluer Monsieur Beignet, patron de Lactalis, qui a quand même mis 2 mois pour présenter ses excuses au public. Ça lui a fait un petit peu mal, mais quand même ça a été ça.
Alors il faut quand même savoir que les toxi-infections alimentaires, on les trouve essentiellement en allant au restaurant. On en a aussi à domicile et on en a un petit peu au niveau de l'industrie. Donc 65% des toxi-infections alimentaires dues aux salmonelles et à d'autres germes sont liées à des restaurants. Et puis chez soi, eh bien, il faut faire assez attention, 30% et 5% liés aux industriels. Actuellement, on estime qu'il y a 15 000 cas de toxi-infections alimentaires qui sont déclarés, avec à peu près 700 hospitalisations par an. Donc c'est pas rien, mais parallèlement, il faut voir que il y a beaucoup des méthodes d'hygiène qui se sont malgré tout améliorées, et autrefois on avait plus de toxi-infections alimentaires.
Bien sûr.
On en a toujours, on en a plus. Il y en avait une, Denis, qui était extrêmement célèbre, qui était la typhoïde. Mmh. Et la typhoïde est due à des salmonelles. Heureusement, on n'en voit pratiquement plus. Cette typhoïde, elle sévissait encore en France dans les années 50-60 et elle pouvait être mortelle. Maintenant, c'est heureusement beaucoup, beaucoup plus rare.
Non, mais c'est bien de remettre les choses en perspective aussi.
Il faut remettre les choses en perspective. Oui, néanmoins, il faut rester vigilant parce que c'est pas anodin que d'avoir une toxi-infection alimentaire. Certaines peuvent être très redoutables aussi avec d'autres germes comme certaines Escherichia coli, le fameux E157 qu'on peut retrouver parfois dans la viande. Donc il faut être très, très prudent. Et puis il y a beaucoup de virus aussi et qui expliquent ces gastro-entérites qu'on peut avoir.
Alors qu'est-ce que je peux faire? Voilà, parce que si l'idée aujourd'hui c'est ça, comment je peux agir, comment je peux dire non, je ne veux pas de toi, salmonelle.
Voilà, alors on va commencer par exemple par les restaurants puisque c'est là malheureusement qu'on a le plus de toxi-infections alimentaires et c'est un peu compliqué.
C'est compliqué, oui. On y va quand même pour du plaisir, etc. Et tout.
On y va pour du plaisir et on ne peut pas respecter les cuisines.
Je vois ce que vous avez des. Voilà, c'est ça. Donc, alors, il faut respecter les cuisines.
On ne peut pas inspecter les cuisines.
On peut pas, oui,
donc, comment fait-on? Finalement, on va le faire de façon peut-être indirecte. On va aller se laver les mains aux sanitaires et on va voir comment sont les sanitaires.
Ah, bien vu. Oui.
Si les sanitaires sont pas forcément tout à fait propre, ou du moins si on a un doute, et que finalement on peut pas se dérober puisqu'on est invité, eh bien ce que vous allez faire, vous allez manger du tout cuit, que des choses bien cuites. Et vous allez faire très attention au dessert, vous allez éviter tout ce qui va être crème, etc., qui peut-être n'a pas été très très bien conservé. Donc là on a un aspect indirect, et on va prendre cette mesure simple. Mais si vous le voulez bien, Denis, je voudrais insister aujourd'hui aussi beaucoup sur les toxi-infections alimentaires qu'on a à domicile. Et à domicile, eh bien, il faut pas hésiter à jeter son pot de mayonnaise quand il a été ouvert depuis longtemps. On fait attention aussi aux crèmes glacées. On fait attention un petit peu à tout ça. On nettoie son réfrigérateur. On isole les aliments. Et puis, il faut bien cuire aussi les produits. Pour vous donner un exemple assez simple sur la viande. Il est assez fréquent qu'il y ait des salmonelles dans la viande et les services vétérinaires peuvent pas tout bloquer puisque sans ça, on n'aurait plus rien sur les étals. Quand vous prenez un steak entier et vous le cuisez, ne serait-ce qu'un petit peu, vous détruisez les salmonelles. En revanche, pour un steak haché, surtout certains steaks hachés d'origine un peu industrielle, on ne sait pas trop, c'est des mélanges. Et si vous cuisez pas votre steak haché à cœur, donc il sera pas très bon si vous le cuisez à cœur, eh bien vous avez un risque de développement de salmonelle et vous avez un risque de toxi-infection alimentaire. Alors ceux qui m'aiment pas du tout, c'est les amateurs de tartare. Il me dit, mais enfin, comment, docteur, pouvez dire une chose pareille? Et donc, si vous voulez un tartare, faites bien attention, vous allez chez un bon boucher, dont vous êtes absolument sûr, et qui va vous faire votre steak devant vos yeux. C'est déjà une première précaution, et on fait un petit peu attention comme ça.
Voilà,
donc, il y a des moyens simples, chez soi, au restaurant, et quant aux industriels, évidemment, ils font des autocontrôles, mais c'est à l'État aussi de faire les contrôles ad hoc et de la façon la plus pertinente possible.
Voilà. Et donc d'un côté, on a des vétérinaires qui travaillent donc dans le privé, et puis d'autres donc qui vont faire les chiens, les chats, les vaches, cochons couvés, et puis d'autres qui sont des vétérinaires d'État qui sont aussi plus ou moins en sous-effectif. Frédéric Danhué. Alors,
oui, Denis,
donc, après cette première information, et on se dit voilà ce que l'on peut faire.
J'aime le tartare. Je suis désespéré là.
Oui, je sais. Là, de toute façon,
faut faire un tartare de légumes.
Les véganes et végétariens vont vous insulter, mais
c'est pas grave.
C'est comme ça. Alors, Frédéric Danhué, 24 heures chrono. Ou bien même 12 heures chrono lorsqu'on se fait livrer quelque chose. Ça fait partie vraiment des arguments publicitaires. Mais derrière, décryptage avec vous, c'est pas forcément bon pour l'environnement ni pour les gens qui travaillent dans ces secteurs. Racontez-nous.
Oui, ça génère un coût social, environnemental qu'on n'imagine pas, un coût qui est très symbolique des coûts cachés hein, que génère notre société de service. Alors pour comprendre ce que je vais vous dire, il faut revenir à l'origine des choses. D'où viennent nos colis? Je vous pose la question, Denis. De l'étranger, en particulier de Chine, 80% des produits manufacturés arrivent chez nous par bateau, par des porte-conteneurs. Alors déjà là, ça coince parce que le porte-conteneur, ça pollue, en particulier quand il est à quai. Là, un porte-conteneur, il émet à peu près autant de microparticules dans le ciel que quelques millions de voitures. C'est un mini-volcan, le porte-conteneur.
Et on embête Volkswagen, c'est incroyable. Et on embête Volkswagen. Et PSA et tout ça, et ben c'est fou.
Alors malgré tout, par kilo transporté, kilomètre parcouru, le porte-conteneur, parce que c'est un moyen de transport massifié, c'est ce qui consomme le moins d'énergie, c'est ce qui émet le moins de carbone. Et puis on va dire qu'on va vers une amélioration parce que les normes environnementales font qu'on va passer du fioul au diesel et ensuite au GNL, hein, comme l'a annoncé.
Donc le gaz.
Voilà, le gaz naturel liquéfié, pardon, CMA-CGM vient de commander 9 porte-conteneurs géants, 400 mètres de long, qui tourneront au GNL.
Bon, alors ensuite, ça y est, on a notre chemise, notre coton fabriqué par des enfants de 8 ans, qui est dans le bateau.
Parfait. Le bateau arrive au port, donc en France, au Havre et à Fos-Marseille. On le dépote et on le charge sur quoi? Parce qu'on est en France qui a délaissé le train et la péniche, on le charge sur un camion. Alors là, c'est pas terrible. Sauf que ce semi-remorque, finalement, c'est pas là où est vraiment le problème, parce que le semi-remorque, son moteur tourne à plein, d'ailleurs il est chargé à plein, les systèmes anti-pollution fonctionnent bien, et finalement, c'est pas là où est le problème. Le problème, c'est près de chez nous. C'est quand on passe du semi-remorque sur la plateforme logistique jusqu'à la camionnette, et la camionnette qu'on fait rouler parce que nous demandons à ce qu'elle roule jusqu'à chez nous dans le moindre temps possible. Et là, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que cette camionnette va faire des petits trajets à vitesse réduite, dans les bouchons. Elle sera rarement chargée à plein.
Quand... C'est peut-être là que si elle est électrique, ça vaut peut-être le coup.
Eh bien, justement...
Si on nous dit, oui, mais l'origine de l'électricité, elle sera nucléaire, etc. Enfin,
alors, c'est une des solutions, effectivement. Alors, je rajoute qu'en plus de tout ça, donc quand on demande une livraison en 24 heures, voire en 12 heures, voire en 6 heures... C'est un enfer pour les logisticiens parce que le transporteur a rarement le temps de planifier correctement son chargement et son circuit de livraison. Donc, les pros de la messagerie répondent, ils font des efforts, ils s'adaptent, ils passent à l'hybride, à l'électrique et surtout, ils optimisent les tournées. Avec un effet pervers, vous allez voir, ce sont des logiciels très complexes qui ajustent en temps réel les points et les heures de livraison en fonction du trafic, de la disponibilité des clients, voire, je les ai vus tourner, de la pollution émise, les oxydes d'azote par exemple, et de la consommation du véhicule.
Alors on pourrait dire c'est bien, mais...
Sauf que ça exerce un stress très fort sur les chauffeurs qui, en plus de devoir livrer à temps, sont censés faire attention à tous les paramètres pour émettre le moins de polluants possible et faire consommer le moins possible à leur véhicule. Bref, voilà une des deux conséquences de notre propension à vouloir être livré tout de suite.
Il y en a une autre quand même extrêmement importante. Vous qui avez écrit « Cessons de ruiner notre sol
bon. ». Eh bien, c'est les entrepôts, parce que pour être livré rapidement, il faut des entrepôts qui sont proches des villes. Les entrepôts, déjà en soi, coûtent très cher. Le foncier en ville coûte très très cher et donc finalement, construit des entrepôts géants un peu plus loin des villes et on en revient toujours au même parce que ces entrepôts sont plus proches des autoroutes que de la péniche et du ferret. On en reste sur le camion. Alors les logisticiens, qu'est-ce qu'ils font pour répondre à ça? Ils mutualisent des entrepôts en ville, ils louent ensemble, même entre concurrents, des heures inutilisées dans les parkings le soir. Il y a une inventivité du secteur de la logistique qui est assez impressionnante. C'est sans doute un des secteurs qui a changé le plus ces 10 dernières années. Mais évidemment tout cela, ces logiciels, ces véhicules hybrides, etc., cette mutualisation, ces entrepôts, ça coûte cher. Et le problème, Denis, c'est qu'en plus de vouloir être livré en 24 heures, on ne veut pas payer.
Non, on vous dit que c'est gratuit. D'ailleurs, c'est aussi un argument. Vous êtes livré gratuitement.
Un argument qui a été imposé par une grande firme américaine dont le nom commence par A, qui a imposé à tout le secteur de la logistique et du transport la gratuité du transport, c'est-à-dire le transport ne vaut rien. Le transport ne vaut rien.
Bon, qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que vous pouvez faire? Éviter la commande, votre livraison automatique en 24 heures, 12 heures, voire 6 heures. C'est une folie.
Il faut cocher une case quelque part.
Alors, parfois, sur certains sites, il y a une case qui vous permet de demander à être livré une fois que le camion est plein. Oui. En tout cas, interrogez-vous pour savoir si vous avez besoin d'être livré tout de suite parce qu'il y a un coût social, économique et environnemental très important. Et puis enfin, il y a aussi d'autres méthodes. Alors pas pour un frigo évidemment, il y a des vélos, il y a des cargocycles qui aujourd'hui peuvent vous livrer des marchandises. Et puis en plus, l'État vient de découvrir les mérites du vélo en proposant 350 millions d'euros dans son dernier rapport pour favoriser l'usage du vélo en France. Donc livraison pas forcément 24 heures et puis essayez d'éviter la petite camionnette.
Et alors le drone là, dont on nous vante les merveilleux mérites,
la campagne, oui, peut-être. Mais en tout cas, ce ne sera pas un frigo.
Non.
Ce sera peut-être un kilo d'orange. ce sera peut-être un tartare. Non, ce ne sera pas un tartare.
De légumes.
De légumes, évidemment, bah, sous vide.
Oui.
Non, mais le drone, oui, en zone non dense.
Ce seront vos tomates bio qui vont être lâchées par le drone. Et vous avez la purée de tomates.
Et vous aurez un coulis de tomates sur la figure. Non, les drones, oui, mais en zone rurale, pas en zone dense, mon cher Denis.
Eh bien, écoutez, nous avons à suivre des fleurs merveilleuses avec Sandra Colombo qui ne vont pas forcément faire 3000 ou 4000 kilomètres parce qu'on n'est pas loin de la Saint-Valentin quand même. Nous allons avoir des orties, nous allons avoir des arbres fruitiers. Restez à l'écoute, c'est Au de mon amour. Ouais, et de la musique.
C'est Au de mon amour avec Denis Chessou sur France Inter.
We're gonna make it.
Bon matin là-bas, c'était Véronique Sanson, France Inter, CO2 Mon Amour. Mais oui, nous on vous attend, mais vous êtes là. Et puis nos amis aussi sont présents. Alors Sandra Canlombo, vous écoutiez Frédéric Danhé là sur le 24
Heures
Chrono.
Avec une grande attention, ben, bien sûr, et oui. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas faire ces petites courses à pied ou en vélo ou aller dans des magasins physiques?
Mais vous avez tout dit, effectivement, faut faire ces courses à pied en vélo. En tout cas pas loin, parce que si vous prenez la bagnole pour aller à l'hypermarché, c'est comme la camionnette. En tout cas, il y a un moyen qui est très simple, hein, c'est de se faire livrer au point relais. J'ai oublié de le dire, mais le point relais qui est situé à 200-300 mètres de chez vous, ben, il facilite le travail du livreur et puis ben, il permet d'optimiser les... Enfin bon, bref, c'est pas mal. C'est mieux que de se faire livrer chez soi en 6 heures.
Bon,
comme à
voilà. Alors, allons-y avec vous parce qu'on va parler de fleurs, chère Sandra Canlombo.
Et oui. Oui, mais moi, bon, Denis, moi, je dois vous dire que d'abord, je suis un petit peu chafouine.
Oui, alors, pourquoi vous dites ça?
Oui, et ben parce que je me demande où est mon bouquet.
Attends, je comprends pas.
Bah, bouquet, parce que, quoi, par exemple, au théâtre, que je pratique de manière professionnelle, lors de la première représentation, la tradition, c'est d'offrir un bouquet de fleurs. Donc là, comme c'est un petit peu ma première chronique avec vous, je me demande... Où est-ce que vous avez caché mon bouquet de fleurs?
Vous savez
que je ne le vois pas.
Le 24 décembre, c'est passé. Les contes de fées aussi à votre âge, peut-être.
Non,
je
arrêtez. Sais pas, n'essayez même pas de détourner la conversation de lui. Parce que là, je vois bien que vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas de fleurs pour moi. Même pas qui... genre 3-4 roses.
Non, on a des choux-fleurs.
On a des choux-fleurs.
Ça ne m'arrange pas.
Je peux vous offrir des endives aussi, parce que c'est la saison.
Non,
parce que...
merci. Oui, je sais. J'en ai plein mon frigo. Non, mais ça ne m'étonne pas. Parce que je sais ce que vous m'auriez dit. Vous allez me dire, mais enfin, mais Sandra, des roses en février, mais c'est pas
la saison. C'est pas la saison.
Eh oui, et vous auriez continué en me disant, mais vous savez d'où elles viennent et comment elles sont cultivées, les roses qui sont chez le fleuriste en février.
Et ça nous intéresse, on y va.
Et là, je vous dirais, mais oui, Denis, je le sais, elles viennent de loin, de très très loin. Elles aussi, elles ont pris l'avion. Elles viennent du Kenya, de l'Équateur, de la Colombie ou de l'Éthiopie. Et elles viennent pas comme ça toutes seules avec leurs petites pattes. Et non. Et pourquoi, Denis? Eh ben, parce qu'elles n'ont pas de pattes, les roses. Elles ont une tige.
Zut, c'est vrai.
C'était facile, hein, c'est important. Hein. Ah là là, je vous ai quand même piégé. Donc, pour arriver jusqu'à nous, elles prennent l'avion, et puis après le camion, tout ça avec la clim à fond, hein, pour pas se faner la beauté. Ensuite, elles font un petit stop à Alsmer, aux Pays-Bas. C'est le plus grand marché aux fleurs du monde. Et puis, paf, elles repartent vers les grossistes, vers les fleuristes, et vers notre vase. Et ça, c'est un problème. Oui, pas le vase, hein, même s'il est plutôt moche. Oui. Mais la vase. Oui, celle qu'on voit de plus en plus à la place de l'eau du lac Naivasha au Kenya, là où se concentrent les trois quarts des fermes de floriculture.
D'accord.
Parce que pour pousser les roses, eh ben, elles ont besoin de soleil, oui, mais aussi d'eau fraîche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on pompe l'eau du lac. Et tant qu'on y est, eh ben, on le pollue aussi. Pourquoi? Ben, parce que pour qu'on ait envie d'acheter ces belles roses kenyanes, il faut qu'elles soient irréprochables. Donc, on engraisse, on insecticide... On fongicide, on acaricide.
Non, mais ça rappelle un peu les pommes aussi, il faut qu'elles soient nickel,
tout sans, pareil.
Sans
ou les haricots défaut. Qui poussent également au Kenya.
D'accord.
Voilà, et là je vous dirais, oui, alors c'est bien gentil Denis, mais ne vous défilez pas, le label Max Ablard, qu'est-ce que vous en faites?
Oui,
vous avez pas l'air convaincu. Bon, je sais, c'est pas super gégène, parce que ça garantit pas le bio, mais c'est quand même moins pire, parce que ça veut dire que les roses, elles ont poussé avec moins d'eau, moins de produits chimiques, et en étant un petit peu plus respectueuses des humains qui les cultivent. Donc c'est mieux. Mais attention Denis, parce que moi j'ai encore mieux que mieux.
Oui. Et ça s'appelle
Fleur d'ici.
Voilà.
Et je crois que vous la connaissez, la dame.
Allez, bonjour Hortense Aran, bonjour à vous de Fleur d'ici.
Bonjour Denis. Fleur d'ici, c'est le premier circuit court de fleurs. En fait, aujourd'hui, c'est presque 9 fleurs sur 10 qui sont importées en France, et avec des impacts sociaux et environnementaux qui sont vraiment pas terribles. Du coup, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour redonner aux gens l'idée de la saisonnalité et de qu'est-ce que c'est que des fleurs locales et de saison. Puisque là, on est à l'approche de la Saint-Valentin, la traditionnelle fleur de la Saint-Valentin, un peu commune d'ailleurs, hein, c'est la rose. Sauf que si vous vous baladez dans la nature, vous verrez que les rosiers, ça fleurit plutôt au mois de juin et pas au mois de février. Donc ces roses, elles sont essentiellement importées du Kenya ou d'Équateur, des choses comme ça. Donc voilà. Mais en revanche, il existe des très très jolies fleurs de proximité, comme des tulipes. En Ile-de-France, il y en a déjà à cette saison.
Alors, vos fleurs sont coupées la veille, après elles sont livrées dans la journée?
Elles sont livrées dans la journée. Donc en fait, nous, notre promesse, c'est qu'elles sont coupées 24 heures avant d'arriver chez les clients. Contrairement à environ 10 jours pour celles qui sont importées, on les récupère. Elles sont transformées dans notre atelier qui aujourd'hui est un atelier où on fait travailler des personnes en insertion. Et ensuite, elles sont livrées en vélo ou en véhicule électrique quand c'est plus loin, puisque nous, on essaye d'être vertueux sur toute la ligne, donc le plus décarboné possible.
Alors allons-y. Donc la tulipe, et qu'est-ce qu'on a d'autre dans vos bouquets en ce moment ?
Alors en ce moment, vous allez avoir donc des tulipes, mais aussi de la bruyère, des œillets de poète. Tous les espèces de petits arbustes comme des prunus qui commencent à fleurir dès maintenant, du magnolia qui fleurit aussi en ce moment, du laurier-thym, viburnum. En gros, là, ça commence à être la saison des bulbes, donc les jacinthes, les jonquilles, les tulipes, toutes les plantes en bulbes, les amaryllis.
Hortense Sarran, vous travaillez avec combien de producteurs aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on travaille en Île-de-France avec une trentaine de producteurs et on est en train de développer le concept un peu partout en France. Donc à terme, tous les producteurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter.
Fleur d'ici, le site sur le site de CO2, mon amour, oui ça fait beaucoup de sites. Sandra Colombo, donc une autre idée vous avez qui va toucher le végétal là aussi.
De derrière les fagots, au lieu de m'offrir des fleurs, Denis, parce que je vois que ça
vous persévérez.
Je vous propose de m'offrir carrément un arbre.
Bon, oui, bien sûr.
Il va falloir un gros vase, vous allez me dire. Bah oui, je sais bien, vous allez mieux dire. Mais je vous incite néanmoins à aller sur le site de la start-up Ecotree.fr qui vous propose d'acheter des arbres. Alors, ce qui permet de lutter contre le CO2, parce que même si vous dites mon amour, je sais que vous ne pouvez pas le saquer en vrai, mais également de gagner de l'argent. Et oui, parce que le jour où l'arbre il est coupé, vous récoltez des espèces sonnantes et trébuchantes. 100% de la vente, du bénéfice de cette vente sera pour vous. C'est comme une sorte de PEL, mais en beaucoup plus mieux pour la planète. Oui. Voilà. Et ben il vous reste plus qu'à choisir ce que vous allez m'offrir. Du boulot, par exemple.
C'est bien. C'est une très jolie
incroyable.
Bon, mais alors sinon, non, mais vous êtes, je sais pas, sur Ecotree, est-ce qu'on est sur la qualité des arbres?
Ils ont pas alors,
fait.
Alors oui.
Ils ont pas alors, fait des coupes rases, vous voyez?
Je les ai appelés moi-même. Oui. Et ils sont, ce sont trois garçons dans le vent qui ont donc un grand respect de la forêt et qui travaillent vraiment dans le respect de la nature et qui entretiennent les forêts qui ont été au départ un peu laissées à l'abandon. Ils rachètent les parcelles et ils plantent des petits arbres. Alors vous achetez un petit arbre qui est pas très grand au départ, qui vaut entre 15 et 30 euros. Et ensuite, il va pousser. Vous pourrez le voir. Il est géolocalisé, etc.
D'accord. Ah oui, géolocalisé.
Ah ouais. Et bim, après, il est coupé. Vous ramassez des sous. C'est formidable.
D'accord. Merci beaucoup, chère Sandra Colombo. Voilà. Et puis, nos auditeurs, ils sont là aussi. 01 56 40 40 35. C'est à vous.
Message pour les habitants de la vallée de la Drôme. Jusqu'au 10 février prochain, le syndicat mixte de la rivière Drôme et ses affluents collecte vos propositions d'action et idées pour l'eau et les rivières du bassin. Attention, cette collecte se terminera dans 3 semaines. Les actions proposées seront discutées en mars lors d'ateliers organisés près de chez vous en présence d'experts. Depuis déjà un an, avec le projet SPAR, des citoyens prennent part à une expérience de participation pour la gestion de l'eau et des rivières. Profitez de l'occasion pour participer positivement à votre territoire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du syndicat mixte de la rivière Drôme et ses affluents. www.rivière-drôme.fr. Bonjour, les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine organisent la 2e édition du Festival du film Société en transition. Comment nos modes de vie évolueront dans les 10 prochaines années ? Le mot travail aura-t-il la même signification qu'aujourd'hui ? Vaste sujet qui sera évoqué samedi soir au Conservatoire de Bourg-la-Reine après le film d'Al Gore Une suite qui dérange, Le temps de l'action. Le festival se poursuivra dimanche, en 4 février, au cinéma Trianon à Sceaux. 17h30, zéro phyto, 100% bio, qui lie la santé et l'environnement avec enthousiasme et audace.
Société en transition à Sceaux et à Bourg-la-Reine, donc ce week-end. Moi, j'en profite pour vous dire qu'on se retrouvera, si vous le souhaitez, à Brest demain pour le festival Longueur d'onde qui est consacré à la radio, donc Amis du Finistère. On y sera demain matin, on y sera demain après-midi. Il suffit juste de ne pas louper le train, donc tout à l'heure, tout ira bien. Alors, est-ce que vous connaissez l'Ariège, quand même ?
Bah oui.
09.
Bah oui.
Très beau département. Et je vais vous y emmener parce que là, on a aussi une initiative très, très positive. On reste dans les arbres, chère Sandra. Ça va vous faire plaisir.
Oui, j'aime bien.
On n'est pas loin de Mirepoix. Alors, Mirepoix, si vous voulez, c'était pas complètement une bastide parce qu'en fait, c'était pas une ville nouvelle, mais ça a été reconstruit. Donc après, ils avaient changé le PLU. Vous voyez, donc ils ont refait une nouvelle ville dessus, mais elle existait déjà.
C'est ça, quoi. Le PLU,
bien sûr. Mais bien sûr, de l'époque. Mais oui, parce qu'il y avait eu des inondations. Puis il y avait des cathares. Alors, il y avait Simon de Montfort qui prenait sa boîte d'allumettes, il nettoyait le coin parce que c'était son grand truc.
Il a bien réussi.
Il a bien réussi et pas que là. Bon, Et donc, on n'est pas loin de, on n'est pas loin de Mirepoix. On est entre Lavelanet et Mirepoix avec Paul Coëffard et qui va nous présenter son association, donc, qui remet vraiment à l'honneur les arbres fruitiers. Ça s'appelle À tout fruit.
On a plus de 40 km de voies vertes qui sont aménagées aujourd'hui. Et nous, ça nous fait, en termes de linéaire de haies, 80 km, puisqu'on a une haie de chaque côté, ouais, qui est relativement large. Et donc, ça fait en tout 80 km de haies exploitables pour l'association.
Alors, association À tout fruit, qu'est-ce que vous faites justement? Et qu'est-ce que vous allez faire avec cette voie verte?
Alors, l'association À tout fruit, elle a pour objet de recenser d'abord les espèces fruitières anciennes sur notre territoire, sur notre bassin de vie de l'Hers, qui part de Lavelanet, Mirepoix, et d'apprendre aux gens à les identifier, ces variétés fruitières, de les tailler, de les entretenir et de les multiplier, mais aussi, elle a pour objet de leur apprendre à refaire des confitures, des pâtes de fruits, et à travailler ces produits-là à travers des petits organismes locaux, qui peuvent être des coopératives, comme la coopérative des jardins de la Haute-Vallée, où on va régulièrement transformer nos fruits récoltés.
C'est presque un conservatoire des arbres fruitiers sur une cinquantaine de kilomètres, tout au long de ce linéaire.
On a déjà recensé plus de 24 ou 25 espèces fruitières différentes. Ouais. Hein, ça va du pommier, cognassier, cerisier, merisier, châtaignier.
Alors il y en a que je ne connais pas.
Je t'ai amené là, on est sur une portion où on a de l'azerolle. Et l'azerolle, c'est un arbre emblématique, peu connu, qui était connu et qui était travaillé et reconnu pour ses gelées d'azerolle, ouais, ses confitures et ses pâtes de fruits. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait ce qu'est un azerolier, il n'y a plus personne qui sait que la baie se consomme et que la baie se transforme. Et cette année, on a ramassé 50 kg d'azerolle, on a été au jardin de la Haute-Vallée, on les a transformés, on a fait des gelées, on a fait des confitures d'azerolle, et tout le monde était absolument enchanté parce qu'on redécouvre des goûts, on redécouvre des parfums, et ça, c'est vraiment le cœur de notre association, quoi.
Là, je reviens sur cette voie verte, et donc de part et d'autre, vous avez envie de planter ou bien de mettre en valeur donc ces arbres fruitiers.
L'importance du linéaire, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des problèmes de conservation des variétés anciennes, des variétés fruitières anciennes, et que les organismes chargés de ces conservations ont de plus en plus de mal à conserver les vieilles variétés, simplement parce qu'ils sont sur des espaces très confinés. C'est des petites parcelles, 50 hectares, 1 hectare. Et nous, ce qu'on propose, c'est à travers le linéaire qu'on a, 80 km de linéaire, de faire le même travail de la conservation de variétés anciennes sur un linéaire. Si ce n'est que ça a des gros avantages en termes de problèmes sanitaires aujourd'hui, phytosanitaires, voire des problèmes d'insectes aussi, ravageurs. Et si je te prends la charca comme exemple, qui attaque le prunier, qui attaque le pêcher...
S'il l'attaque à la vanille, il ne va pas forcément l'attaquer 40 km plus bas.
Sur un conservatoire traditionnel, la charca attaque la parcelle, l'État va demander au conservatoire d'arracher sa parcelle. Ouais. Ça veut dire que ça peut avoir des conséquences énormes en termes de travail effectué pour recenser les variétés, les conserver. D'un coup, d'un jour à l'autre, on te détruit une collection. Et ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, sur du linéaire, ça n'existe pas encore. On se propose de le mettre en place. Si on fait ce conservatoire sur du linéaire, si la charca attaque à Abraham, on va détruire 1, 2, 3 individus, mais on ne va pas détruire une collection. Ouais, et ça, c'est un avantage certain. Et d'ailleurs, les structures comme l'INRA, on les a rencontrées, ou d'autres conservatoires, se sont rendus compte de l'intérêt et nous proposent déjà de nous transférer des collections.
Cette voie verte, donc, c'est 27 communes, et donc elles sont toutes d'accord pour que l'on puisse planter des arbres au bord.
Alors, si tu veux, la voie verte, elle appartient aux deux départements. Elle n'appartient pas aux communes. Les deux départements sont complètement OK, puisqu'ils ont conventionné avec nous l'utilisation. On a une espèce de fermage sur l'ensemble du linéaire. Ça, ce qui est assez extraordinaire, hein, parce que conventionner avec les départements, c'est pas aussi évident que ça. Par contre, chaque commune, ces 27 communes, sont traversées par cette portion de voie verte et sont concernées parce que la plupart ont des gares, des anciennes gares, d'autres des passages à niveau. Et ils faisaient quelquefois l'entretien de cette voie verte. Et puis, il faut dire aussi que les gens allaient ramasser les noix à bord de la voie verte. Déjà, ils connaissent. Hein, donc, ils sont tous impliqués et ils sont tous, sauf une ou deux communes un peu réticentes, d'accord pour passer des conventions avec nous, pour nous aider à mettre en place, si tu veux, l'entretien des arbres, la préparation des trous pour les plantations l'hiver, etc. Et ça nous permet d'avoir 27 conventions et la mise à disposition de personnel, mais aussi la mise à disposition de matériel. Et aujourd'hui, il nous manque un petit peu de financement. Il faudrait que les communes nous aident, que les communautés de communes nous aident un petit peu, sans compter que la mise en place d'un conservatoire linéaire, si tu veux, le département de l'Aude l'a très bien compris, c'est un atout touristique important, bien parce qu'on part du canal du Midi jusqu'au Qatar avec Montségur. Et si en plus on est capable d'amener une thématique environnementale et une thématique historique à travers les arbres, parce que les arbres c'est l'histoire des hommes, que ce soit les cerisiers et les pommiers, on raconte l'histoire des hommes à travers les vieilles variétés. Chaque variété elle a une histoire et on est capable de la raconter cette histoire.
Mais il y a tout ici, absolument tout. Il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes.
Il y a même une source.
On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
Oh, je ne me suis jamais senti aussi jeune depuis 30 ans. Vive la Révolution !
Vive la Révolution !
La Révolution !
Vive la Révolution !
Ce goût pour justement les arbres fruitiers, ça vient d'où, vous, Paul ?
Personnellement, je suis tombé dedans quand j'étais petit, ouais. Parce que je suis fils d'arboriculteur et j'ai vécu dans les vergers, j'ai vécu dans les pommiers. Et quand tu commences à connaître le pommier et que tu t'y intéresses, tu sais plus t'en détacher.
Newton serait là, il serait.
Oui, mais tu sais que en Angleterre, justement, le pommier de Newton, il est encore en place et il fait parler de lui. Et qu'on est capable d'avoir un représentant du pommier de Newton, où on peut emmener le pommier de Newton sur la voie verte, parce qu'il suffit de récupérer un greffon des pommiers de Newton, le positionner sur la voie verte, et c'est le même individu, parce que le greffage, c'est ça. C'est le même individu que tu multiplies de génération en génération. Et il y a des variétés de pommiers, ça fait 2000 ans qu'on se dépasse de producteur à producteur. Pour nous, c'est quelque chose de fabuleux. C'est 2000 ans de relais.
Petite bouffée donc d'Ariège, il y avait un peu de voiture aussi près de cette voie verte hein, avec Paul Coeffard et donc cette association Arbres Fruitiers en Ariège. Là aussi, vous avez les coordonnées sur le site de l'émission. Laurent Chevalier, je reviens avec vous. Donc, si vous prenez en cours de route, et ben voilà, docteur Laurent Chevalier, médecin nutritionniste qui s'intéresse aux plantes aussi, et on va s'intéresser donc aux orties. Ne flippez pas avec les orties. Oui, urtica, celle qui brûle en latin, parfait. Alors, bon, on connaît l'activateur de croissance, le stimulant des défenses immunitaires qui est quand même assez génial, la guerre de l'ortie, le purin d'ortie, qui menaçait les semenciers, c'était formidable, les députés ont taclé l'ortie, bon, alors maintenant ça va un petit peu mieux, mais on attend quand même un petit peu aussi le ministère d'Agriculture sur ce sujet-là. Bon, là c'est pas le thème, on va s'intéresser à la plante. Qu'est-ce qu'elle soigne, cette ortie, Laurent Chevalier?
Elle soigne beaucoup de choses, urtica, dioïca, c'est une plante avant tout qui est une plante fortifiante et reminéralisante.
Oui.
Et vous savez qu'autrefois, dans les fermes françaises, on avait des hachoirs à orties, à la fois pour les animaux, pour la basse-cour, pour les chevaux aussi, on en mettait. Et puis, on en mettait aussi dans sa soupe.
Eh oui, c'est la soupe d'ortie avec un petit coup de crème fraîche, bien comme il faut.
Pas toujours avec de la crème fraîche.
Pomme de terre.
Oui, bien sûr.
J'ai une tout petit peu, une petite cuillère comme les crèmes fraîches.
Bon, non, mais c'est tout à fait possible, bien entendu, ça donne du goût.
Si on l'a pas laissé ouvert trop longtemps, le pot de crème fraîche, sinon il y a
des salmonelles qui arrivent.
Sinon il y a salmonelles qui déboule.
Vous n'avez rien suivi, Denis.
C'est la dernière soupe à l'ortie que j'ai prise, c'était en Suisse, il rajoutait même du gruyère.
Ah bah oui.
Et donc c'était pas mal du tout. Donc c'est une plante qui est reminéralisante, qui est intéressante, qu'on peut conseiller dans certaines situations, la feuille, donc quand on est fatigué, mais aussi par son caractère donc reminéralisant, ça peut être intéressant quand on a de l'arthrose. Donc prendre une tisane avec du frêne, de l'ortie, ça a du sens. C'est pas une tisane contre la douleur, c'est une tisane qui va aider un petit peu, en sachant que le cartilage est difficile à joindre.
Oui.
Puisqu'il est peu vascularisé. Et donc, c'est toujours un peu compliqué. Mais faire ça de façon très régulière, c'est intéressant. Et puis, on a un peu des nouveautés. Les deux nouveautés que l'on a, c'est qu'il semblerait qu'elle puisse avoir une action aussi antidiabétique. Donc, quand on est un diabète avec des médicaments, eh bien, ça peut retarder aussi le passage à l'insuline. Alors, bien sûr, on a besoin de recherches supplémentaires, mais c'est une piste intéressante. Et comme dirait Denis Chessou, ça ne mange pas de pain.
Oui, je dis ça, moi, tiens.
Donc, on peut prendre ça. Autre chose aussi intéressante pour les messieurs qui nous écoutent, là, c'est la racine. La racine aurait des vertus contre le cancer de la prostate et même l'adénome de la prostate. Et là, du coup, il faut le prendre en gélule. Donc, finalement, une plante ancienne, une plante que l'humanité a toujours consommée et qu'on peut continuer à prendre avec de nouvelles indications.
Ode à l'ortie, merci à vous, Laurent Chevalier, 01 56 40 40 35.
Bonjour.
bonjour à tous, bonjour France Inter. Et voilà, je m'appelle Jean-François Monnier et j'habite à Béziers dans le département de l'Hérault. Et à Béziers a commencé la construction d'un incinérateur pour brûler 15 000 tonnes par an de déchets extraits des eaux usées. Cet incinérateur sera à environ 2 km seulement du centre-ville. Tous les candidats à l'élection municipale de 2014 avaient promis de s'opposer à ce projet s'ils étaient élus. Mais après l'élection, ils ont tous voté pour l'incinérateur, sous la pression de la Lyonnaise des Eaux, puissante multinationale, très influente sur les élus. Sans la moindre consultation des citoyens et alors que beaucoup de Biterrois ne sont au courant de rien. Un incinérateur empêche le recyclage. Il multiplie la quantité des déchets, il les rend plus toxiques. Impressionnante est la liste des polluants cancérogènes ou potentiellement cancérogènes émis par l'incinération et dispersés à des kilomètres à la ronde. C'est pourquoi les incinérateurs sont frappés par la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. Cette taxe, qui augmente régulièrement, soi-disant incite les communes à recycler leurs déchets au lieu de les brûler. Une pétition est toujours en cours. Il nous faut être nombreux pour pouvoir peser dans cette lutte et pouvoir collecter suffisamment de fonds pour les frais de justice. À bientôt.
Dormir dans les arbres, se balader sur le plateau du Vercors avec les ânes, explorer les profondeurs de la terre et vivre en pleine nature. Bonjour, l'association Les Voyageurs des Cimes, qui a pour objet de recréer le lien entre l'homme et l'environnement, propose des séjours en nature en immersion dans la région Rhône-Alpes. Pour des enfants de 6 à 17 ans, retrouvez-nous sur notre site internet www.voyageursdescimes.com pour les infos nature. Et merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci à vous donc pour vos messages, 01 56 40 40 35, vous en avez l'habitude. Peut-être un petit rajout quand même sur l'incinérateur de Béziers, Frédéric. Ouais,
avant même qu'il pollue l'incinérateur, il faut savoir que ce qu'on appelle les mâchefers, les bouts de centrales d'épuration, concentrent évidemment tous les polluants qu'il y a dans l'eau, notamment les métaux lourds, les solvants, les molécules pharmaceutiques, il faut bien en faire quelque chose. Les polluants sont d'abord dans l'eau avant d'être générés par la centrale d'épuration.
Bien, merci beaucoup. Alors nos nanoparticules, je reviens avec vous docteur Chevalier, parce que les nanoparticules, on a eu donc au mois de février, donc le numéro de Que choisir. Attention, elles se cachent partout, ces nanoparticules. Minitaï et donc Maxidoute sont dans plus de 4000 médicaments aujourd'hui. Alors c'est, en fait, c'est des matières qui sont très très familières. Ça peut être de l'argent, de l'oxyde de fer, de la silice. Donc ça, je ne vais pas dire que c'est vieux comme le monde, mais c'est une taille infinitésimale et qui va changer d'identité. Donc quelle est votre réaction par rapport à ça? Parce qu'il n'y a pas un petit côté un peu fin de civilisation là?
Vous avez tout à fait raison, on change d'identité. Et toute la problématique, elle est là. Je voudrais quand même vous rappeler ce que disait le directeur de l'évaluation des risques en 2016. Il disait « Les incertitudes restent grandes et dans 10 ans, il sera trop tard pour se poser la question de leur encadrement ». Aujourd'hui, on a un véritable problème par rapport à ça. C'est-à-dire que ces nanoparticules, elles sont absolument partout. Elles vont servir plus ou moins pour la conservation, pour maintenir les arômes, certaines textures, comme anti-agglomérants. Or, elles ont été très mal étudiées. Je vous donne un exemple très précis, le dioxyde de titane, qui est un colorant. Sous sa forme, disons, minérale, il est autorisé comme additif, mais il est peu absorbé. En revanche, sous sa forme nanoparticulaire, il n'est absolument pas étudié. Or, dans les tests de toxicologie pour les additifs sur la toxicologie aiguë, on l'analyse sur 90 jours. Là, dans le dioxyde de titane, pour les nanoparticules, les lésions apparaissent au bout du 100e jour.
Ah, c'est ballot ça.
Autrement dit, on a un nombre d'incertitudes extrêmement grand par rapport à ça. C'est très mal encadré, ça va au niveau des cellules. Et effectivement, quand vous dites c'est une fin de civilisation, ça prendra peut-être quelques décennies.
C'est pas ce qu'on souhaite. Hein, du
tout. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on commence à en avoir absolument partout. Et les industriels ne respectent pas la réglementation, puisque normalement, ils doivent déclarer lorsqu'il y en a.
Ah, c'est ça.
Et quand on interroge le ministère,
alors, qu'est-ce qu'on fait,
qu'est-ce qui répond le ministère? On va s'en occuper. Et ils avaient promis de s'en occuper lors des états généraux de l'alimentation. Oui. Pour l'instant, on n'a strictement rien vu venir. C'est une préoccupation majeure pour nous médecins. Ça peut atteindre l'embryon, ça peut atteindre un certain nombre de cellules, et il faut faire extrêmement attention. Donc on n'est pas contre nanos.
On peut faire extrêmement attention. Qu'est-ce que l'on fait?
Eh bien écoutez, Denis, il y a une chose très simple. Vous mangez en bio. parce qu'en bio, sauf fraude, les nanoparticules sont interdites. Donc on n'est pas contre les nanoparticules pour renforcer l'acier, pour le mettre dans les peintures ou dans des choses comme ça.
Parce que vous en avez dans les pneus, dans le bâtiment, l'agriculture, dans les produits de consommation courante.
Dans les produits pharmaceutiques.
Dans les
pour améliorer
de sport,
l'efficacité.
Voilà.
Et dans la cosmétique
Et dans la cosmétique aussi, puisqu'effectivement la texture est différente, ça peut s'étaler. C'est vraiment...
Dans le domaine médical, il y a quand même des applications qui sont très utiles.
En cancérologie.
En cancérologie, tout à fait. Donc il ne s'agit pas de rejeter ça, il s'agit juste de dire qu'il faut faire une évaluation santé avant de l'utiliser, et notamment dans l'alimentation. D'autre part, le devenir de toutes ces nanoparticules, on le connaît très mal, en termes d'impact sur l'environnement, ce qui est une source de préoccupation tout à fait majeure.
On le voit dans les centrales d'épuration, elles s'agglomèrent les nanoparticules et finissent par boucher parfois certaines tuyauteries.
Allons bon, là aussi il y avait les cotons-tiges, il y avait tout ça qui bloquait les
steppes. Les pépins de tomates, hein, c'est ce qui résiste à tout.
Le pépin de tomate est mutant.
Oui. Donc il n'est pas mutant, mais il résiste à tout, donc il s'accumule. C'est le E171, le dioxyde de titane.
Oui, mais on en trouve ailleurs aussi comme anti-agglomérant, le E550, etc. Donc on en a beaucoup, et encore une fois, très très mal étudié. Voilà. Consommez du bio,
alors, à
vous
la
évitez.
Fois une ronde de vigilance, une ronde d'initiative aujourd'hui, c'est ça, l'environnement, dans ce merveilleux monde dans lequel nous sommes, ce merveilleux 21e siècle. On trouvera encore d'autres solutions. Vous n'oubliez pas 01 56 40 40 35, ça c'est le numéro du répondeur. Merci à Gaël Braouzec et Nicolas Delmas à la technique, et Camille Blanès qui a préparé cette émission, Xavier Pessugia qui réalisait l'émission, Muriel Pérez, Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, je vais peut-être vous emmener dans les Hautes-Pyrénées, dans la vallée de Lutour, on va prendre de l'air. On va rencontrer une chercheuse mais qui a découvert des tas de choses en chimie verte, autrement dit elle s'appelle Claude Grison. On aura une parole de jeune, il y aura aussi vos messages, donc vous n'hésitez pas, tout ceci se met en place. Rediffusion, ce sera entre 5h et 6h du matin, si vous le souhaitez. Le podcast, vous en avez l'habitude. Et puis les petits bateaux, et après les petits bateaux, ce sera la tuile du bon petit loup à 19h54. Demain, je vous souhaite un excellent week-end.